cette troisième période du témoignage de Simone Pollack, rescapée de la Shoah, nous retrouvons la jeune Simone, 15 ans, dans un train pour le camp de Bergen-Belsen, alors qu'elle quitte le camp d'Auschwitz, d'où elle pensait ne jamais sortir vivante.
Je suis partie avec les 2300 personnes, fin octobre 1944, qui ont quitté Auschwitz. Nous sommes entrés dans les trains, des wagons à bestiaux, il n'y avait même plus de paille par terre. Nous sommes assis, nous avons attendu, et finalement le train a démarré. Est-ce que je peux vous dire que on riait, on pleurait, on chantait? Jamais on pensait pouvoir quitter ces lieux vivants. Et c'est comme ça qu'on est parti. On est parti de là en train. Nous avons mis 3 jours pour arriver dans un lieu qui s'appelle Bergen-Belsen. Nous ne savions pas où c'était ni rien. Il faisait froid. Il y avait de belles forêts, je me rappelle. C'était une belle forêt. Et on nous a amenés. Nous étions 2300 personnes. Et il y avait là, est-ce que vous pouvez vous imaginer, 2 immenses tentes. C'est-à-dire que bon, ben voilà, vous divisez par 2 les 2300 personnes, vous voyez plus de 1000 personnes qui tiennent dans une tente. Il y avait beaucoup de vent. Et un soir de grand vent, dans ma tente, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un bruit énorme, vous ne pouvez pas vous imaginer, comme si c'était un orage terrible. Eh bien, il y avait tellement de vent, le vent s'est engouffré sous la tente et a déchiré le toit de la tente. À l'arrivée, on nous a donné une couverture et un ustensile pour manger. C'était la première fois de nouveau que nous avions un ustensile personnel, quelque chose de personnel. À la suite, on voyait, bon, il pleuvait, il y avait du vent, on voyait la Voie lactée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On nous a mis dans des baraquements. Au début, à Bergen-Belsen, nous n'avions pas le même régime d'Auschwitz. Pourquoi? Parce que l'état-major était resté à Auschwitz. Mais nous sommes partis de là, il commençait à vider le camp. Nous avons eu la chance d'éviter la marche. Il y en a beaucoup qui ont eu cette marche de la mort, nous ne l'avons pas eue. Et au bout d'un certain temps, l'hiver, nous sommes arrivés fin octobre, au mois de novembre, nous étions tranquilles. Mais début décembre, à partir de ce moment-là, on a nouveau, il neigeait déjà, il faisait très froid. Nous n'étions pas vêtus en conséquence. Ça faisait quand même 6 mois que nous étions sous-alimentés. Et le froid se ressentait vraiment. Et nous avions beaucoup d'appels. Pourquoi? Parce que l'état-major d'Auschwitz était arrivé à Bergen-Belsen. Nous étions regroupés, les Françaises, et nous avions notre responsable de bloc, c'était Annelies Stern, d'origine allemande, son père était psychiatre, et par la suite, après la guerre, elle est devenue psychanalyste, elle a écrit des livres, c'était une personnalité vraiment attachante et qui a fait beaucoup pour nous. Je le dis, elle nous a sauvés de beaucoup de choses. Et puis, nous avions la possibilité à Bergen-Belsen de traverser la forêt, je vous ai dit, une très jolie forêt, et d'aller prendre une douche chaude. C'était énorme ça, parce que quand on était dehors, pendant un certain temps, il fallait se doucher, se laver dehors. C'était toujours de grands bacs. Au milieu, il passait un tuyau et des trous d'où sortait de l'eau. Voilà. Et tous les 15 jours, on avait la possibilité d'aller prendre une douche. Et c'était vraiment formidable. Un jour, c'était au mois de janvier, Annelies nous dit, voilà, et nous étions toujours accompagnés par un officier allemand, et elle s'entretenait vraiment avec lui, elle était de langue allemande aussi, hein, Annelies, et elle s'est entretenue avec cet allemand, et nous a fait un rapport en disant, j'ai été contactée par l'état-major, et on me propose de partir en Allemagne, dans une usine d'aviation. J'ai demandé l'avis de l'officier qui nous accompagne à la douche et il m'a dit, à votre avis, je partirai le plus tôt possible. Je quitterai ces lieux le plus tôt possible. Et c'est ainsi qu'elle a donné son aval pour que nous partions. Effectivement, quelque temps après, deux civils allemands, plus un officier allemand, est venu et nous a... Nous étions dans un grand hall et nous devions passer une à une devant ces trois personnes. Quand est arrivé mon tour, on a dit, celle-là, on m'a dit en allemand, celle-là, on ne la prend pas. Alors que nous avions aucune possibilité, aucun droit de regarder un Allemand, a fortiori de leur parler. Nous étions moins que rien, moins que des esclaves. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, « Ich kann arbeiten », je sais travailler. Et alors on m'a dit, « Que sais-tu faire ?» Je suis couturière. De ma vie, j'étais couturière, j'étais scolarisée à l'époque. Et l'un des civils dit à l'autre, « Inscris-la, on verra par la suite ce qu'on pourra faire. » Quand l'ordre est venu de partir, qu'il fallait que tous ceux qui ont été inscrits devaient se réunir à telle et telle place. Moi, j'ai couru avec les autres. On n'a plus jamais rien demandé et je suis partie avec les partantes. C'est-à-dire, nous étions 200 Françaises qui partions à l'usine d'aviation de Ragun, près de Dessau. À l'arrivée, vous savez, je n'étais pas très fière parce que j'avais très peur. Je n'avais que 16 ans, travaillais en usine. Je me demandais ce qui nous était réservé et surtout ce qui m'était réservé parce que, bon, alors on a commencé à choisir les personnes qui partaient à l'usine. Je me suis fait toute petite à l'arrière, dernier rang, toute petite. Je me suis dit pourvu qu'on ne me prenne pas. Après, on a demandé des responsables de bloc. Nous étions dans une pièce de 33 personnes. Je ne me sentais pas non plus capable d'être responsable. Et après, on a demandé des personnes pour entretenir la chambrée, chercher le café, chercher le pain, etc. Je me suis avancée et je me suis montrée que j'étais forte et j'étais choisie. C'est-à-dire que le matin, on allait chercher ce qu'il y avait à chercher et l'après-midi, on devait creuser un abri. Mais on était, à l'époque, on était à l'usine, les personnes qui avaient été choisies étaient en contact avec les prisonniers de guerre. Moi, ça ne me gênait pas du tout, de toute façon, voilà. Nous étions surveillés par des Aufseherinnen, c'est-à-dire des femmes militaires. Mais comme elles avaient froid comme nous, très vite, elles se réfugiaient dans leur foyer. Quand elles n'étaient pas là, nous non plus, nous n'étions pas là. Et puis voilà, c'était déjà un petit peu la fin. Il faut le dire. J'étais de plus en plus faible. Mon amie allait travailler à l'usine. Elle me ramenait le soir, elle me ramenait une carotte. Elle m'a dit, tu vois, je t'ai ramené une carotte, ce sont des vitamines. Un autre jour, elle m'a ramené une pomme de terre crue. Elle m'a dit, il faut la manger, c'est des vitamines. Avec la meilleure volonté, je n'ai pas pu. Après, elle m'a ramené des pommes de terre en robe des champs, les pelures de pommes de terre. On avait un fourneau à charbon. Elle m'a dit, tu sais, tu mets ça sur le fourneau, tu verras, c'est bon. Je n'avais plus d'appétit, je ne pouvais plus travailler. J'étais au bout du rouleau, vraiment, j'étais au bout du rouleau. C'était déjà un peu ma tuberculose qui était là. Et puis, un jour du mois, c'était début avril, on nous a dit, on entendait au loin, il y avait le canon qu'on entendait. Les nouvelles qu'elle ramenait des prisonniers de guerre disaient que les troupes avancent, les troupes alliées avancent, que nous allions être libérés bientôt. Et puis, on était obligés de quitter nos chambrées pour aller de l'autre côté avec d'autres personnes. On renforçait, on avait besoin de nos chambrées parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivaient. Et un jour, on est parti, mais on n'a pas marché longtemps. Il y a des camions qui sont arrivés et on nous a amenés à une station, une gare, je pense que ce devait être Leipzig, je n'en sais rien. On est monté, on était à 100 dans ce wagon. On nous a donné un quignon de pain. On est resté là. On a ouvert la porte tous les deux jours. Les personnes avaient, pour s'exonérer, elles avaient des boîtes en fer blanc. On ne s'exonérait que dans ces boîtes en fer blanc. On ouvrait la porte tous les deux jours pour nous donner un quignon de pain. Nous avions des poux. J'ai commencé à compter les poux, plus de 60 poux dans une manche. J'ai arrêté de compter les poux parce que, bon, j'avais à côté de moi une personne qui tombait sur moi. Je ne savais pas ce que c'était, je la redressais dans l'autre sens. Et le jour où on est sorti, la personne est tombée difficilement. J'étais depuis 24 heures ou 48 heures à côté d'une morte. La personne, on l'a prise. Nous avions aussi, au début, nous étions très serrés dans ce wagon de 100 personnes, eh bien, on a sorti tellement de morts, de mortes, qu'à la fin, eh bien, il y avait plus de place. Mais nous étions de plus en plus affaiblis. Et il y avait des personnes qui avaient qui ne pouvaient plus rester assises. Il y avait des gémissements terribles. Il y avait à côté de moi, il y avait une dame qui avait sa mère à côté d'elle. Et sa mère gémissait de jour comme de nuit. Et un jour, comme il y avait de la place, elle a dit « Maintenant, je vais voir ce qui se passe. » Elle avait un séant, vous ne pouvez pas vous imaginer, je ne le verrai plus jamais comme ça. Elles étaient jaunes, infectées et rouges vifs. C'est une femme qui souffrait le martyr et elle ne pouvait plus rester assise. Nous sommes restés pendant 8 jours dans ce wagon. On ouvrait tous les 2 jours, comme je vous ai dit. On ne savait pas combien de temps on allait se trouver là. On était de temps en temps sur une voie de garage. Il y avait le matin, on voyait, on entendait les avions au-dessus de nous, on entendait des bombardements. On s'est dit jamais on arrivera quelque part. Eh bien, on est arrivé quelque part, on a ouvert notre porte et nous étions à Theresienstadt, qui est un ghetto. Et le ghetto, c'est une ville où on a vidé les habitants des maisons, c'est-à-dire que dans une chambre de ce ghetto, on met 10 personnes, 10 matelas par terre, et voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire que les personnes sont, si elles ont de la chance, elles sont restées avec un mari et un enfant, mais très vite, il y a une sélection. Et il y a l'un ou l'autre qui part à la sélection et qui part à Auschwitz. Mais les chambrées sont des matelas qui sont par terre à 10. Nous sommes tous, toutes telles que nous arrivons. Nous sommes admises au revire. Nous restons le temps qu'il faut. Au fur et à mesure, les personnes peuvent sortir. Mon amie Sarah reste 3 jours dans le coma. Elle ne bouge plus. On la laisse. Je me dis, mon Dieu, pourvu qu'elle se réveille. Parce qu'elle a passé toute la guerre pourvu qu'elle se réveille. Et puis un jour, effectivement, elle s'est réveillée. Au fur et à mesure, notre chambrée qui se composait d'une douzaine de personnes se vide. Et nous restons à deux, une jeune fille de mon âge et moi-même. Cette jeune fille, je ne peux pas lui parler. Elle parle une langue que je ne comprends pas. Nous sommes jeunes toutes les deux et nous avons des punaises. Les punaises sortent la nuit. À partir du moment où vous laissez la lumière allumée, les punaises ne sortent pas. Bon, ben moi, je me suis dit, je vais laisser la lumière allumée. Écoutez, s'il n'y a que ça, on le fait. Hein. Et puis, nous étions au rez-de-chaussée. Et puis, on voyait très bien les gens qui passaient. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? 3 Russes. Theresienstadt a été libérée par l'armée russe. Au ghetto, nous n'avons pas vu grand-chose. Ce qui s'est passé, effectivement, nous entendions des coups de fuite à l'extérieur. C'était la citadelle. La citadelle de Thérésine est connue. Pourquoi ? Parce que c'était les politiques qui étaient là-bas. Et c'est eux qui, à partir d'un certain moment, se sont rebellés. Et puis voilà, vraiment, c'était la fin. Et c'était le 8 mai. Nous avons été libérés par l'armée russe le 8 mai. Ces Russes étaient devant la porte et qui voulait escalader la porte, la fenêtre. Je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, je suis sortie de mon lit, j'ai simulé une crise, je ne peux pas vous dire laquelle. C'était peut-être une crise cardiaque, c'était peut-être une crise d'étouffement, je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis démenée à tel point qu'ils étaient dégoûtés et qu'ils sont partis. Ils avaient à peine quitté les lieux, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levée, j'ai éteint la lumière et ils se sont rendus compte, et il y avait une deuxième fenêtre. Ils ne sont pas remontés, mais ils se sont parfaitement rendus compte que j'avais simulé une crise. Eh bien, punaise ou pas, c'était fini. Hein. C'était extinction des feux. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon ben voilà, on venait nous contrôler de temps en temps, disant que nous, les Françaises, on partirait très vite. Nous partirions très vite, qu'on nous entend en France, etc. Eh bien, je me suis dit, il faut absolument que je sorte de là. J'avais 35,3, 35,4 le matin et 40, 39,40 le soir. Ben, le soir, je ne prenais plus ma température. Et à partir du moment où je ne prenais plus ma température, j'étais bonne pour la sortie. Mais je suis allée dans un logement, comme je vous ai dit. Il y avait des matelas par terre. Et puis, je voyais mon ami. On était 10 dans une chambre. Et puis, mon ami, je la voyais. Et puis, ben, on se voyait tous les jours. J'étais mal en point, comme c'est pas possible. Mais bon, ben, j'étais là, je pouvais marcher, j'étais debout. Un jour, mon ami vient, me dit, écoute, viens vite, tu ne sais pas ce qu'on rentre. Mais non, comme j'avais changé, on n'avait pas pris mon adresse où j'étais, on m'avait oublié carrément. Et mon amie, quand elle ne m'a pas vue avec les autres, elle est venue me chercher. Le lieu de rencontre, elle savait où c'était, mais elles étaient déjà parties. Comme elles savaient que je parlais toujours, va, parle. Mais je ne savais pas le russe, moi, hein, vous savez, c'est pas rien. Alors je suis allée au bureau, j'ai demandé française, j'ai essayé de me faire comprendre. Et puis elle m'a envoyée dans un bureau où on ne comprenait pas non plus. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui a compris le français qui a mis une estafette à notre disposition pour partir. On a rejoint les autres qui avaient déjà pris leur douche et puis on est parti avec les autres. C'est-à-dire, c'était la Croix-Rouge qui nous avait récupérés. Et c'est comme ça qu'on est parti et qu'on devait aller jusqu'à Pilsen. C'était difficile. Pour moi, c'était très difficile parce que j'étais très fatiguée. Arrivée à Pilsen, moi, je me suis affalée sur un tas de foin et je me suis endormie immédiatement. Quand je me suis réveillée, j'avais faim. J'ai demandé, est-ce qu'on mange ? On m'a dit, mais il n'y a plus rien. On a mangé, on a bu, il n'y a plus rien. Alors, je ne tenais plus debout. Les avions sont arrivés. Et comme je ne tenais pas debout, on m'a mis sur un brancard et je suis rentrée sur un brancard à Lyon-Bron. Et là, j'étais pas 3 heures en France, que j'étais hospitalisée à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. J'avais une pleurésie, on m'a tiré de l'eau et puis je suis restée hospitalisée pendant 2 mois. Et je suis en France depuis.
Simone Pollack sur l'importance de témoigner et de passer le relais aux jeunes générations.
Eh bien voilà, vous avez accompli ce qu'il faut accomplir. C'est-à-dire, vous avez encore entendu une rescapée. Et je pense que vous en tirez des conclusions, parce que je ne raconte que ce que j'ai vécu. Et ça, vous pourrez toujours le dire. Vous ne l'avez pas lu, vous ne l'avez pas vu écrit, vous ne l'avez pas inventé, vous avez encore rencontré quelqu'un qui a raconté son itinéraire. Voilà. Il ne s'agit pas de persuader, mais au moins de ceux qui nient la vérité, au moins rétablir la vérité. Parce qu'aujourd'hui, et je l'ai vécu ça, les négationnistes, on les a vécus. C'est parce qu'il y avait des négationnistes que j'ai commencé à témoigner. Parce que ça, c'est impossible d'admettre qu'il y ait des négationnistes, des gens qui refusent de croire. Ça, pour un ancien déporté, il n'y en a malheureusement plus possible, des anciens déportés, mais pour un ancien déporté, c'est inadmissible de ne pas croire ce qu'on dit. Je n'ai pas à pardonner. Ce n'est pas moi qui dois pardonner. Je n'ai pas à pardonner. Ce sont les victimes elles-mêmes. Je n'ai pas. Est-ce que vous trouvez que j'ai une haine en parlant ? Je n'ai jamais eu de haine. Jamais. La haine ne vous mène à rien. À rien. Et ça, je l'ai compris, je n'ai pas de haine. Je raconte les choses, je dis les choses comme je les ai vécues. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, vous me dites ce que vous avez à dire, mais il n'y a pas de haine, mais il n'y a pas de pardon. Les seules personnes qui pourraient pardonner, ce sont les victimes intéressées, celles qui sont parties malheureusement, et elles ne sont plus là.
C'était le témoignage de Simone Pollack, 93 ans, enregistré le dimanche 20 novembre 2022 lors d'une conférence devant les étudiants juifs de France, section Strasbourg, dans les locaux du FSJU.